gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Nous sommes dans une cathédrale.
Ton effet cathédrale, tu le cherchais ?
Oui, bah j'arrivais à le couper. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Ça va mieux ?
C'est parfait. Ouais, ça me semble bien.
Désolé pour cette ouverture étrange qui est liée à un petit réglage que je n'avais pas enlevé. Et oui, car ce soir, dans la causerie, oui c'est la causerie !
C'est la causerie,
sur
oui !
Sur Radio Canu à 22h tous les dimanches, il y a dans le studio Stan.
Bonsoir. Et Fab.
Voilà, bonsoir. Et en fait, tu as aussi un effet cathédrale que j'enlève. Alors attendez, ça va aller bien se passer. Voilà, excusez-nous, en réglage en direct.
Toujours un petit effet, c'est joli.
Non, c'est beau. Voilà. Ouais, vous avez aimé, amis auditrices, auditeurs, écrivez-nous sur lacauseriecanu@gmail.com.
Lâchez des pouces bleus, comme voilà. On dit sur YouTube.
N'importe quoi. Et donc voilà. Donc, que dire ? Bah oui, donc lacauseriecanu@gmail.com, ça c'est pour nous joindre par mail. On a sinon un espace blog qui est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, tu tapes radiocanu.org et tu vas dans les blogs des émissions et tu cherches la causerie. On y est, c'est sûr. Et enfin, aux dernières nouvelles.
Ouais, je suis pas allé voir hier.
Ouais, c'est
normalement,
pour ça,
c'est bon.
J'y vais jamais, en fait. Si on y est, c'est sûr.
En fait, ça voilà. Fait 4 ans qu'on n'y est plus.
Voilà. Et sinon, ben, on a aussi un espace sur Facebook, donc, sur lequel on ne fait que relayer, comme je le dis. Voilà. Parce qu'on ne répond pas vraiment aux messages. Enfin, on essaye, mais en fait, on n'est pas assez devant. Je ne sais pas comment dire, enfin, sur la page, voilà.
Et on a un mail.
Oui, donc lacauseriecanu@gmail.com, comme je l'ai dit déjà deux fois.
Ben, on va le dire une troisième fois, lacauseriecanu@gmail.com.
Et donc, ce soir, alors, émission un peu particulière, parce qu'on n'est que deux. Donc, on va d'abord commencer par la diffusion d'un documentaire sonore qui collera bien à la semaine des fiertés, enfin la quinzaine, pardon, des fiertés. Voilà, donc en fait, on a décidé de vous passer ça. Ça s'appelle Coming In. C'est un documentaire d'Élodie Font qui a été mise en onde et mixée par Arnaud Forest. Et en fait, je vais vous lire le pitch parce qu'il est assez marrant. Visiblement, la Terre entière le savait avant elle. Elodie est homo. Encore aujourd'hui, on lui demande comment s'est déroulé son coming out. Alors que le plus dur, ce n'est pas forcément de le dire aux autres, ça peut être surtout de se le dire à soi. À travers des extraits de son journal intime, les témoignages de ses proches et des sons rigolos, Elodie raconte un changement progressif de regard, un chemin vers soi qui passe par le déni, la peur, les idées noires, et mène à l'acceptation. Voilà, bonne écoute, on se retrouve dans exactement 28 minutes et 13 secondes.
Bon documentaire.
Lise, Maud, Laure, Aurélie, Amélie, Céline, Julie, Marie, Stéphanie. En tout, oui j'ai compté, il y en a eu 23.
T'es hyper masculine.
Enfin, hello, t'as vu comment t'es habillée ?
Tu fais du foot.
Il y a un moment, faut se rendre à l'évidence.
Mais elle est lesbienne, elle, non ?
Mais si, t'es lesbienne, ça se voit.
T'es lesbienne ? Réveille-toi, merde !
Mais tu respires pas la féminité, quoi.
23 personnes différentes, toutes de sexe féminin, quasiment toutes sous l'emprise de l'alcool, persuadées que j'étais homo. S'appuyant sur leur guédar, leur radar à guet. Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans,
Je porte des chemises à carreaux. Et à ce moment-là, nous sommes en 2005, je suis très très loin de faire le moindre lien entre mon sweat à capuche, un arc-en-ciel brodé sur le cœur, et ma sexualité. J'ai même souvent très envie de hurler sur tous ces gens qui pensent tout savoir mieux que moi.
La goudou, la goudou, la goudou. Ouh, la goudou, la goudou.
Je me souviens de la première fois où on m'a dit « Hello, tu le sais pas, mais t'es homo. » Comme si c'était une évidence. Comme si j'étais passée à côté de la réalité. C'était en préparant mon BAFA. J'ai cru l'espace de quelques mois que j'allais animer des centres aérés tous les étés. J'ai 17 ans. Elle s'appelait Anne. Elle était grande, assez imposante, les cheveux noirs, au carré. « Tu me chamboules », elle a dit. « Un jour, tu rencontreras ton identité sexuelle. » Elle parlait comme dans un livre un peu obscur puisque je n'ai rien compris. À l'époque, c'était surtout le chanteur Patrice qui m'intéressait.
« You are with you, you are with you, ta-dam. »
C'est pratique parce que depuis mes 9 ans et demi, très important le « et demi » à cet âge-là, j'ai écrit une trentaine de cahiers. J'écrivais au stylo plume. Je devrais m'y remettre. J'adorais l'odeur de l'effaceur. J'avais toujours des taches d'encre sur les doigts. Ça, c'est mon journal de la terminale. Il y a écrit en gros dessus, au feutre noir, « Ose devenir qui tu es ». Je le saurais si j'étais attirée par les filles. Ce serait forcément écrit dans un de ces journaux. C'est la première fois que je relis ces pages. Nous sommes le 15 juillet 2003 et je viens d'obtenir mon bac. Cher journal, mon interrogation est profonde. Je recherche toujours une protection parmi mes amis. Mais le plus surprenant, c'est lorsque mes sentiments grossissent envers quelqu'un. Une fille qui m'est inconnue. Une actrice, une fille dans la rue, n'importe qui. C'est curieux comme alors j'envie cette personne que je ne connaîtrai jamais. Généralement, j'y repense 3 ou 4 fois et cela s'atténue. Il y a des fois où franchement, je suis incompréhensible. Je sais qu'au moment où j'écrivais ces lignes, je pensais à cet instant. Je le sais parce que j'y pense encore régulièrement. Un dîner, chez mes grands-parents, à Rennes. J'avais 15 ans. Et il y a cette actrice, dans un téléfilm dont j'ai complètement oublié le nom, je saurais même pas la reconnaître. Un grand soleil, une prairie, cette fille dont les cheveux sont dorés illumine la scène. Et immédiatement, un impact dans ma poitrine. Puis, la nuit qui a suivi, les yeux grands ouverts, la difficulté à respirer, à se demander quel était ce sentiment naissant, vaguement gênant. Et comprendre, sans comprendre, qu'il allait falloir l'étouffer. Je ne me suis pas autorisée à le ressentir. Je ne me suis même pas autorisée à l'écrire. Pas une ligne de plus que ce que je viens de vous lire. Aucune trace de cette nuit-là. Et pourtant, je ne l'ai pas rêvée. Je suis certaine qu'elle a existé. C'était la première fois que c'était là. Diffus. L'impression qu'un sentiment s'était déplacé. Que quelque chose n'était pas au bon endroit.
Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas?
Non. Je me sens pas très bien.
T'inquiète, ça va bien se passer.
Je sais pas, j'ai super mal au ventre, j'ai peut-être mes règles.
Fais-moi confiance.
Allô Mathilde, ça va?
Ouais, et toi?
Je sais pas trop.
T'as vu Florian?
On a passé la nuit ensemble, ouais, mais j'ai pas dormi, quoi. Genre pas une seconde.
Mais parce que t'étais pas bien?
Je sais pas. J'ai une question. Est-ce que c'est normal? Alors je sais, tu vas me dire, y a rien de normal, mais est-ce que toi, quand tu passes la nuit avec un mec, genre la première fois, tu peux pas dormir parce que t'as la nausée? J'ai dû écrire sur ce sujet, sur mon premier copain. Ça a quand même duré un an et demi, mes 17-18 ans. Il jouait de la guitare, m'avait enregistré sur CD, je me souviens, une reprise de Cabrel. Il me raccompagnait devant la porte du sous-sol de mes parents et on se roulait des pelles dans le noir. Je comptais les tours en trouvant ça beaucoup trop baveux pour moi. Et c'est un peu fou de le dire à haute voix, mais je sais pas si on a un jour fait l'amour. Je sais qu'on a essayé, très peu de fois. J'ai le souvenir de plusieurs ratages et je n'arrive pas à me rappeler si oui ou non, à un moment, on a fait l'amour. Après lui, il y a eu, je sais pas, 6 ou 7 mecs et je ne sais pas avec lequel j'ai fait l'amour pour la première fois. Je saurais même pas dire si j'ai déjà fait l'amour avec un mec. J'ai zappé ma première fois. Cher journal, ce mec, il m'attire. Mais pas spécialement physiquement. C'est assez étrange comme sensation. Dans mon journal, à aucun moment je ne raconte une relation sexuelle. On a dormi ensemble samedi et je n'avais aucune envie d'aller plus loin. Aucune. Je ne sais pas ce que je dois faire. La seule sensation évidente, en me relisant, c'est l'absence d'amour. J'ai très peur de coucher avec. Ça va faire 8 mois, mais ça me bloque. Je ne ressens rien. Si un jour vous avez besoin d'une excuse pour ne pas coucher avec quelqu'un, vous m'appelez, hein, parce que j'avais du stock.
J'ai
mal à la tête.
J'ai
mal au ventre.
J'ai
mes règles.
J'ai
piscine, poney, une mycose.
La phobie des préservatifs. Je
suis mal épilée.
Je
préfère faire du canoë.
Je
me suis bloqué la mâchoire.
Je
dors mal quand je suis pas chez moi. Me suis fait une tendinite au tennis de table. Peux pas rester, désolé. Je pensais que j'avais un problème physique qui m'empêchait de ressentir du plaisir. Je suis même allée chez le gynéco pour vérifier que j'avais pas les ovaires inversés. Ou un truc dans le genre qui expliquerait pourquoi je n'avais aucun désir physique. Le mec m'a souri. Il était vieux, c'est lui qui m'avait aidé à naître, paraît-il. Et comme si c'était une bonne nouvelle, il a rajouté
« Tout va bien, mademoiselle. »
J'étais presque déçue. Je voulais tellement être comme mes copines. Leur raconter que ça y est, moi aussi, j'en étais. Que ça y est, moi aussi, j'avais craqué sur tel mec, que c'était génial au lit, que vraiment, j'adorais ça. J'avais tout prévu. J'allais leur raconter ça au flashback, un samedi soir, entre les lacs du Connemara et Madonna.
Paranormal ! Brigitte ! Lisa !
L'idée, ce serait d'aller manger après.
C'est la voix de Fanny. Et attention, spoiler, témoin à mon mariage. Est-ce que d'abord, tu peux me re-raconter cette fameuse soirée où vous m'avez enfermée?
À ce moment-là, on essayait de trouver un moyen de t'ouvrir les yeux sur la réalité. Et on n'a pas choisi la manière la plus subtile, il faut bien dire ce qui est. Et donc un soir, on était chez moi à Lille, Et on a sans doute pas mal picolé. Et du coup, on était un peu jusqu'au boutiste. Donc on s'est dit, il faut qu'on la force à se rendre compte qu'elle pourrait être attirée par une fille en particulier. Et la fille en question étant présente, peut-être que ça serait l'occasion. Et donc on n'était plus que quatre et on a fermé de l'intérieur la porte de mon appart. Et on t'a dit que tu n'en sortirais pas tant que... Je sais même pas quoi, tant que t'avais pas... avoué, entre guillemets, c'était tant que t'avais pas dit oui, j'aime les filles, ou oui, je veux bien sortir avec elles, ou oui, je sais pas.
Arrête de te mentir, embrasse-la cette meuf.
Mais elle a une meuf.
Regarde, elle arrête pas de te mater.
Ça ferait quoi d'embrasser une meuf?
Ça a pas l'air très compliqué.
Qu'est-ce que vont penser mes parents?
Mais on s'en fout,
ils vont me virer.
T'es lesbienne.
Comment les gens vont me regarder? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi putain?
Embrasse-la,
stop. 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 Stop.
Ok, t'as gagné. Vous avez tous gagné. Je vais essayer. Je vais l'embrasser. Enfin, si elle veut bien. Elle a bien voulu. Elle a mis ses mains sur mes yeux. Et elle a caressé mes lèvres. Putain, j'ai couché avec une meuf. Cher journal, je suis contente d'essayer. Au moins, je sais ce que signifie être avec une fille.
Coucher avec une meuf.
Je crois qu'à terme, je préfère être avec un garçon. Je trouve ça plus simple, dans l'absolu. Je pensais que ce serait plus... différent. Ça y est, c'est ce truc qui donne des fourmis dans le bas-ventre.
Oh là 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 là, je sors avec une fille.
Je me sens fragile, suspendue à elle. 3 jours sans ses lèvres,
je sors
et je n'en peux plus. J'ai 23 ans et il faut que ça sorte de moi. Il faut que je le dise.
J'étais en train de repasser et tu es donc venue dans la chambre en bas où je repasse. Et tu... Alors je ne sais plus précisément ta phrase quand même, mais tu m'as dit quelque chose du genre « j'ai quelque chose à te dire » quoi. Et là, c'est là que tu m'as dit que tu aimais une autre... Alors je ne sais plus si c'est fille ou femme, peut-être fille... Et en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est que tout de suite, tu t'es mise à pleurer. Et je t'ai demandé, je suis allée vers toi, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Et tu m'as dit que tu avais peur que je te rejette, quoi. Et c'est vrai que là, je t'ai dit qu'on va se mettre à pleurer toutes les deux. Donc, évidemment, et là... En fait, ta réaction m'a surprise. Ce que tu dis ça, ça m'a surprise parce que pour moi, c'était une évidence qu'aucun de mes enfants, je peux le rejeter. Je ne sais même pas ce qui pourrait être possible que mes enfants fassent pour que je les rejette. Donc, je me demandais même comment c'est possible que tu aies pu penser ça.
Tu te rappelles que juste avant, il y avait eu une conversation à table et j'avais l'impression que tu m'avais lancé une perche. Est-ce que tu te rappelles de
Alors,
ça?
Je me souviens que tu m'avais dit ça, mais je ne sais plus quelle était la conversation par contre.
Parce que moi, je me souviens d'une conversation où, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, tu dis « De toute façon, il y a des homosexuels dans chaque famille. » Et j'ai dû faire une tête un peu bizarre. Et tu dis, tu regardes papa et tu dis « Ah bah regarde la tête de papa, ça lui ferait bizarre et tout. » Et moi, j'ai dû rougir parce que je me suis dit « C'est pas possible que tu avais dû choper une conversation. C'était pas possible
non,
que tu
non,
me
non,
dises ça. »
Je sais pas du tout, me souviens plus du tout pourquoi. Hein, toujours pareil, on se met à parler. Tu me connais. On enchaîne, et souvent une conversation nous mène quand même assez loin. Donc je sais plus du tout de quoi on parlait, honnêtement. Hein, est-ce qu'on a parlé de quelqu'un d'autre, d'une autre famille? Je sais pas. Je me souviens plus. Mais je me souviens qu'après coup, tu m'as dit que tu pensais que j'avais lancé une perche, mais en fait pas du tout, quoi. Hein.
Cher journal, d'un coup, cette impression d'être libre, de ne plus avoir à mentir. Après, je vous arrête tout de suite. Je ne me sens pas lesbienne. D'ailleurs, je déteste ce mot. C'est moche, non ?
Lesbienne, lesbienne, lesbienne.
D'ailleurs, lesbienne, je pense que j'ai été butchophobe.
Lesbienne, lesbienne,
lesbienne. Butchophobe. Ne pas aimer les lesbiennes qui s'habillent comme des garçons, qui ont les cheveux courts et des tatouages. Trouver qu'elles jouent tout le temps au baby-foot et au handball. Trouver qu'elles font tout le temps la gueule et qu'elles desservent la cause.
J'aimais bien faire l'amour avec ma copine pendant l'orage. C'est terminé. Elle était un peu trop fêlée, moi trop fragile, trop angoissée. Elle trouvait que j'écoutais des groupes miteux. Ça va les têtes raides, c'est joli, non ? Elle voulait que je signe un contrat qui stipulait que nous n'étions pas un couple, que nous ne le serions jamais. Même si on se voyait tous les soirs. Et je l'ai signé, ce contrat. C'est terminé. Maintenant que mon esprit se libère, les vraies questions. Est-ce que je suis vraiment homo ? Ou est-ce que je suis juste tombée sous le charme d'une fille, d'une seule ? Je me suis longtemps posé la question. Pendant des années, j'ai cru que c'était seulement une fille, que bien sûr que non, je n'étais pas homo. Bon, en l'occurrence, je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'autre homme depuis. Le dernier, c'était un 15 août, il y a 8 ans, et chaque été qui a suivi, je fêtais une année de plus sans pénis. Il y en a bien eu quelques-uns qui ont tenté. Un mec, en soirée, m'a proposé de m'emmener au 7e ciel. Je n'étais homo que parce que je n'avais pas encore couché avec lui. Sérieusement, pire tentative d'approche au monde. Avec aussi le...
Mon ex est lesbienne, t'inquiète.
Mais je m'inquiète pas. Enfin, un peu, mais c'est pas le problème. Ma cousine est lesbienne, ma voisine est lesbienne, mon chien est lesbienne, on s'en fout. Est-ce que je vous dis combien d'hétéros je côtoie ? Je me disais, après cette expérience avec une femme... que tout allait rentrer dans l'ordre. J'allais reprendre le cours de ma vie. Assez classique. Un mec. Un chat. Sauf que 3 mois plus tard, l'homosexualité m'a rattrapée. J'étais dans un train. En vacances. Je lisais du Chuck Palahniuk. Et au détour d'un paragraphe, le mot « suicide » m'a frappé. Il est entré en moi, s'est infiltré dans toutes mes pensées, comme une alarme lancinante qui ne s'arrêtait jamais. Ça a duré 6 mois, jour pour jour. C'était pas la première fois. Avant, pendant plusieurs mois, j'avais été obsédée par mon propre prénom. Elodie, 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 Elodie. La même voix intérieure, le même conflit, les mêmes maux de ventre à m'en faire vomir. Mais là, le mot suicide... c'était plus fort. À chaque fois que j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Comment j'ai pu aller aussi loin dans la souffrance pour me parler à moi-même ? Pourquoi penser à ce mot qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à prononcer alors même que je n'avais pas envie de me tuer ? J'ai mis des mois et des mois à comprendre. J'ai pris 2 kilos par mois passés à comprendre. Un jour, dans la rue, je me le suis promis. Si tu te sors de cette merde, si un jour ton cerveau te laisse tranquille, tu ne te plaindras plus jamais. C'est quand même dur de ne jamais se plaindre. Et pourtant, ça s'est arrêté. 6 mois. C'est long. 6 mois. Nous sommes le 8 février 2011. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je suis en terrasse, avec des amis. Et d'un coup, l'une d'elles me fait remarquer que peut-être j'essaie de me dire à moi-même, depuis tous ces mois, qu'il faut que je fasse le deuil de mon hétérosexualité. Que je fasse le deuil de ce que j'attendais de moi, en robe blanche, avec un mec super qui serait un père formidable. De ce que mes parents attendaient de moi.
En toute honnêteté, je pense que très vite, j'ai pensé à le potentiel petit enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça allait être très difficile. Tu vois, t'as une fille, tu t'imagines, allez, qu'elle va ramener un mec, et puis qu'il y aura des petits-enfants. Enfin, le schéma bien classique, quoi. Et en fait... subitement, là, comme ça, mais vraiment, boum, l'espace de quelques... Enfin, je vais pas dire secondes, parce que c'était pas juste à ce moment-là, mais tu te dis que tout ce que t'as imaginé, tu peux faire une croix dessus, quoi. Donc ça, c'est un peu dur, quand même, malgré tout, à vivre en tant que parent.
En fait, je ne voulais pas me suicider. Je devais tuer mes désirs d'hétérosexualité. Et d'un coup, le mot suicide a glissé de mon corps. Il a quitté mes jambes, mon ventre, mes bras, s'est envolé pour ne jamais revenir, comme si mon corps s'était lavé. Et soudain, je me suis sentie si légère. J'étais la même personne, j'avais la même tête, les mêmes yeux, les mêmes cheveux fous et incoiffables. Et pourtant, d'un coup, tout était différent. Le 9, je n'ai jamais autant fait les magasins. Le 10, j'ai porté une robe pour la première fois depuis 20 ans.
T'avais besoin de t'accepter pleinement, quoi. Et puis de je pense, trouver ta propre manière d'exprimer ton homosexualité. Je pense que c'est ça. Justement, enfin, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu n'arrivais pas à accepter, c'était l'image de la lesbienne donnée par la société. Oui, à partir du moment où tu as eu cette espèce de déclic, tu t'es mis vraiment d'un coup à t'habiller hyper féminin. Fin...
Et d'un coup, c'est comme si je découvrais
le cul!
C'est pas encore la fin du chemin. Je me suis posé tellement de questions. Comment faire confiance quand on s'est menti pendant des années? Comment se faire confiance quand on s'est menti? Comment faire pour aimer sans douter? Comment lutter contre les crises d'angoisse qui ont envenimé ma deuxième relation? Comment on fait pour encaisser ça?
On voit de plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage.
Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel.
Il n'est pas possible que demain un enfant, sur son acte de naissance, ait marqué Caroline, née de Jean-Pierre et Nicolas.
Lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle, vous avez oublié la zoophilie, c'est ça qui me gêne.
Ce sont eux qui m'ont donné envie d'écrire. Les Copé, Boutin, Barjot, Dassault, La Manif pour tous. Parce que se réveiller chaque matin avec des voix qui te disent que tu es, au choix, une malade mentale, une zoophile en puissance, une mal baisée, une sous-merde. Y a de quoi se tirer une balle. Je me souviens, à ce moment-là, plusieurs fois je me suis dit, et si je les avais entendus il y a encore un an ou deux, comment je l'aurais vécu ? Et je me suis dit, un jour, Hello, un jour, tu te serviras de ton micro. J'ai pleuré devant Taubira.
Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société.
Et je suis tombée amoureuse une troisième fois. Elle a les yeux tachetés, un blouson en cuir marron et elle marche en roulant des épaules. J'ai envie qu'elle me dévore. Nous nous embrassons le 17 juin 2014. Un an plus tard, je parade en robe blanche, la bague au doigt, et je danse, pour mon mariage, sur les têtes raides. Il y a une autre histoire qui m'occupe l'esprit. Il y est question d'espoir, de donneurs semi-anonymes, de Thalys, de Week-end à Bruges, de paillettes de sperme, de deux prénoms féminins, dans la case « Maman » d'un futur livret de famille. Clémence et Élodie. Il y aura du son dans ces biberons.
Voilà, vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu et radiocanu.org. On vient de vous diffuser le documentaire Coming In de Élodie Font, ou Fonte, j'ai un T, voilà, qui a été mis en onde par Arnaud Forêt. Pas mal, hein, quand même.
Eh ben, c'était très sympa. C'est une, enfin, je vais pas dire que c'est une très belle approche, parce que c'est pas ça du tout l'idée, mais à l'écoute... Et quand on ressent, quand on s'imagine un petit peu tout ça, quand on essaie de se mettre à la place, même si on n'y arrive pas vraiment, enfin moi dans mon cas, c'est vrai qu'on se dit que ça doit vraiment être tout ça qui se traverse l'esprit en fait. Pour plein de gens, ça doit vraiment être ça, cette incompréhension par rapport à ce qu'on essaie de faire croire, que de nous faire croire qui est la normalité en fait. Mmh. On est toujours là-dedans, dans cette, on nous inculque une normalité et là, on, ah, d'un coup, bah, on est perdu.
Ben ouais. Mais je trouve qu'elle le rend très très bien.
C'est magnifique.
Et pour l'avoir vécu sur un autre penchant, j'aime bien dire ça, c'est classe. Et moi plutôt la bisexualité, c'est vrai que le questionnement qu'elle a à se dire est-ce que j'aime les filles, est-ce que j'aime les garçons, moi j'ai eu le même, mais plutôt pourquoi j'aime toujours les deux. C'était un peu un truc qui...
Ça doit être pareil, parce que...
Voilà. Mais qui passe, hein. Après on s'y fait. Mais au départ, on a cette espèce de sensation. Et moi, je trouvais que voilà, le documentaire, j'aime pas forcément tout dans la forme, mais ça, c'est mon côté, j'aime pas forcément certains trucs. Mais par contre, je trouve que le fond est assez, assez bon. C'est pour ça que je trouvais cool de le diffuser ce soir. Je vais rappeler que c'est la quinzaine des fiertés sur Lyon. Et que donc, il y a encore plein de soirées prévues. On vous les annoncera dans les brefs, ça tombe plutôt oui. bien. Comme ça, vous allez rester. Parce que, ouais, c'est bien, ils vont nous annoncer des trucs.
On annonce toujours des trucs, quand même. Ils restent toujours, en plus.
Je sais pas. Je voudrais la preuve qu'il y a encore des auditrices et des auditeurs, mais je sais pas comment faire.
Si, il y a un truc pour faire ça. Il faut mettre pamplemousse dans les commentaires.
Pamplemousse. Ah, ouais. Bah tiens, mettez pamplemousse dans les commentaires.
Si on a mis pamplemousse, on sait que tout le monde s'est barré. Quoi.
Bon, du coup, on va passer un peu de musique, puis on passera à un tout autre sujet. Vous verrez ça.
Elles se tiennent la main en secret sous leur veste, se caressent des yeux sans un geste. On lit sur la photo où elles elle sourit tranquille. Juin 1950 à Belle-Île. C'était pas facile dans ces années-là. Et en ville, on en parlait tout bas. Les mots de haine, ce qu'on entend à peine, les ont fait pleurer bien des fois. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aimait. Et moi qui sais le prix de leurs amours rebelles, moi qui suis mi-voyou, mi-voyelle, si j'ai choisi d'aimer intriguant glisocèle, je peux vivre au grand jour grâce à elle. C'était pas facile dans ces années-là, et en ville, on les montrait du doigt. Les mots qui glissent, les regards en coulisses, les ont fait douter d'elle quelquefois. Pour toucher le ciel, elles avaient besoin d'elle, besoin d'elle. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aimait. Elles se tiennent la main en secret sous leur veste, se caressent des yeux sans un geste. On lit sur la photo où elle sourit tranquille. Juin 1950.
Il faut toujours écouter Marie-Paul Bell et c'est bien de le faire dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu. Voilà.
Et on est désolé si on n'est pas coupé les micros au début, si vous avez entendu quelque chose.
Oui, c'est pas Clara, la technique c'est moi et c'est l'enfer. Je m'en excuse, pardon.
On vient d'écouter quoi ?
Marie-Paul Bell, donc, et avec Celle qui aime elle. Voilà, et c'est issue de son album de 2010 ou 2011. Voilà, parce que Marie-Paul Bell chante toujours, contrairement à ce que les gens croient. Voilà. Et du coup, ouais, alors Stan, tu vas nous parler du sujet de la semaine, quoi.
Le sujet de la semaine. Enfin, vraiment.
Le sujet.
Voilà, bon, il fallait bien quelqu'un se dévoue, donc je vais en parler. Ça a débuté donc la semaine dernière, hein, week-end dernier, comme tout le monde le sait. On en a parlé un peu toute la semaine, et là, on arrive sur. Voilà, qu'est-ce que ça va donner, c'est quoi l'avenir, les 5, les 2, 3, 5 prochaines années. Et oui, donc moi je vais vous parler de l'E3. Donc pas du tout des législatives, je vais vous parler de l'E3. Alors l'E3, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand salon international des jeux vidéo.
C'est où?
C'est Los Angeles.
Waouh,
c'est beau. Hein.
T'es parti en reportage?
Non, je suis malheureux. Oui, parce que comme tout le monde le sait maintenant, je suis un gros geek. Au fur et à mesure, j'évolue, j'étais un petit geek au début de ça, maintenant je me dévoile, je suis un geek en puissance. Et donc je vais parler de l'E3. L'E3, donc, qu'est-ce que c'est? C'est Electronic Entertainment Expo. Et c'est vraiment le plus gros salon. C'est The Place to Presque To Be.
Waouh!
Voilà, je mets presque parce qu'il y a 2-3 éditeurs qui font bande à part, tout ça, pour dire non, on va faire un plus gros événement encore pour présenter nos trucs.
Le 4.
Qu'est-ce que c'est quand on dit un salon de jeux vidéo? En fait, c'est voilà, tous les plus gros éditeurs donc, qui vont présenter leurs jeux vidéo, mais pas les jeux vidéo qui sont faits, pas les jeux vidéo qui vont sortir. En fait, c'est on va vous montrer, ben voilà, on est en train de bosser là-dessus. Ça va sortir à cet été, mais comme ça va sortir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans.
C'est un peu comme le marché du film à Cannes ou le marché de la série, quoi. C'est-à-dire, tu montes des trucs que tu.
Voilà, mais qui sont pas arriver. Du tout terminés.
Oh, oui, non, mais c'est ça.
Des bandes démos, des fois, c'est vraiment que des artworks, enfin, que des images.
Ah oui, carrément,
juste des concept art. Donc voilà, on a gribouillé des petits trucs comme ça, on est en train de bosser là-dessus. C'est ça, comme voilà, on va faire un jeu de rôle en ligne, tout ça. Donc, voilà, et l'E3, c'est vraiment un truc absolument fou, absolument dingue. C'est complètement surréaliste. Il faut s'imaginer des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent à un même endroit pour voir tout ce que ces éditeurs vont
mettre sur le marché. Donc on parle bien de jeux vidéo, on parle de toute cette culture geek en fait qui est avec les yeux grands ouverts en disant waouh, mais qu'est-ce que je vais faire pour occuper mes soirées tous ces prochains temps, qu'est-ce qu'on va me proposer de trucs géniaux à faire,
que vais-je faire de mon année prochaine.
Exactement.
Et donc du coup tu dis des milliers de personnes, c'est un salon qui draine, tu sais à peu près,
je sais pas, parce qu'en fait chaque année en plus ça, donc j'ai pas vraiment regardé cette année, chaque année il y a des petites bonification des années, ils ont dit que c'était, enfin ils ont fait en sorte que c'est que pour les journalistes.
D'accord.
Des années, ils ouvrent au public, c'est de derniers jours, etc. Machin. C'est très très journaliste en fait, surtout. C'est vraiment.
Ouais, c'est fait pour donner l'envie. Quoi,
c'est
en
fait pour donner l'envie, c'est fait pour tous les magasins, tous les sites de jeux vidéo en parlent en fait. C'est quelque chose vraiment, c'est le moment de l'année où on va, enfin les exclus comme on dit, enfin les. C'est la première fois qu'on va parler de ça.
D'accord.
En fait, c'est vraiment un regroupement sur quelques jours, c'est 3-4 jours, où on va faire des annonces dans tous les sens. Enfin, là, je vais en parler un petit peu après, mais Microsoft balance 40 jeux, 20 inédits qu'on n'a jamais entendu parler, etc. C'est vraiment le moment où on va savoir qu'est-ce qui va se passer.
C'est là où tout est dévoilé, quoi.
Exactement. Et c'est chaque année à Los Angeles. Et chaque année, il y a plein de gens qui sont invités, donc il y a plein de reportages YouTube et totalement sous l'eau par rapport à ça. En fait, on ne parle plus que de ça pendant une semaine. Enfin, d'accord. Les informations, enfin, c'est un petit peu, c'est la Coupe du Monde de foot, mais en jeu vidéo, quoi. C'est vraiment, on va plus parler que de ça.
Mais c'est tous les ans.
Mais c'est tous les ans. C'est ça qui est génial.
Le geek est un peu plus addict que le foot, quoi. En fait, ce que tu veux
ah
dire.
Ah oui, non, mais le geek est un fou. Il passe ses soirées à ça. C'est encore pire. Non, en France, on a quelques micro-événements. Enfin, je dis micro-événements parce que même si c'est des gros événements, ça s'appelle la Paris Games Week surtout, donc un gros événement à Paris, mais c'est risible. C'est comme si on comparait, je sais pas, un marché, un petit village de campagne avec les braderies de Lille.
Ouais, je vois.
Ça n'a aucun sens. C'est même au niveau de ce qu'on va voir, de ce qui est possible, de tout ça, c'est risible. Et pourtant la Paris Games Week, ça commence à monter. Et j'y suis allé. Malheureusement, c'est affreux, n'y allez jamais. C'est horrible, c'est horrible. Beaucoup trop de monde, il n'y a strictement rien à faire, c'est affreux.
N'y allez pas.
Ne faites surtout pas ça. Je vais juste faire une petite parenthèse aussi sur le monde du jeu vidéo, en fait. Parce que là, je parle d'un énorme salon, c'est génial, c'est fantastique, tout ça. Le jeu vidéo, juste pour rappeler, c'est un marché colossal.
Oui, tout à fait. Hein.
C'est un marché qui a dépassé celui du cinéma, de pas beaucoup, mais qui l'a dépassé maintenant. C'est en centaines de milliards que ça se compte. D'ailleurs, c'est une centaine de milliards, c'est 100 milliards, ouais, exactement. Tout à
fait. pour 95 pour le marché du cinéma.
Exactement. Donc ça vient de dépasser sur les deux dernières années, je crois. Et c'est vraiment un marché qui draine. Et qui est énorme. C'est quelque chose qui a pris une ampleur et qui est dans la vie de tous les jours maintenant. Parce que c'est sur vos téléphones portables, c'est le marché du jeu vidéo est là aussi. Téléphone portable, sur Facebook, sur les consoles, sur les PC, etc. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Et donc, pendant une semaine, on va nous présenter des jeux par rapport à l'E3. On va nous présenter des jeux et je me suis dit, hey, il y a plein de jeux. Je vais compter. J'adore compter.
Et c'est ton truc, ça. Ouais, tu comptes souvent, j'ai remarqué.
J'avais compté déjà, temps de parole, tout ça, des trucs chelous. Donc je me suis mis à compter. Je me suis mis à compter, en fait, les personnages principaux, qu'on va appeler des avatars. L'avatar, ouais. En fait, c'est le personnage que le joueur va incarner dans un jeu vidéo. Donc l'avatar, dans tous les jeux présentés, en fait, quelles sont les possibilités qu'on nous donne ? On nous propose de jouer un homme, de jouer une femme, de jouer l'un ou l'autre. Ou de jouer autre chose, un animal, un robot, voilà. Et je me suis mis à compter, je me suis dit, tiens, c'en est où un petit peu la situation actuelle, parce que même si c'est pas toujours nickel, et même si c'est pas toujours à tous les niveaux, il y a une avancée quand même dans cet égalitarisme. Il y a quelque chose qui va dans le bon sens.
On s'approche de l'égalité.
On s'approche de l'égalité dans pas mal de domaines. On est encore très loin, je dis pas.
Mais il y a un mieux, quoi.
Voilà. Donc je me disais, tiens, on va compter. Je vais compter, donc j'ai pris les jeux un par un, je me suis beaucoup beaucoup amusé, je regardais des cinématiques, je regardais des images, je regardais des pochettes, je regardais comment était la com était faite.
Je le dis pour les auditrices et auditeurs, il l'a fait volontairement, on l'a pas forcé, il aime vraiment ça.
Ça prend des heures en plus, hein, c'est affreux.
Je
regardais comme ça, je mettais dans mon petit tableau Excel, je comptais, tiens, c'est ça, voilà. Donc, 45% des jeux ont un avatar, donc un personnage jouable par le joueur, est masculin. 38% des jeux ont un avatar qui est masculin ou féminin.
D'accord.
Donc là, je mets tout de suite une petite parenthèse. Dans ces 38%, il y en a moins de 50% où on nous montre ça de manière égalitaire, justement.
Ouais, d'accord.
Il y a un gros pourcentage où toute la communication va être faite sur un personnage masculin. On peut incarner l'un ou l'autre.
Mais on n'en parle jamais.
Mais on n'en parle pas vraiment.
Mmh, d'accord.
8% des jeux sont avec un personnage féminin.
Ouais. Ou tu n'as pas la possibilité de prendre un masculin.
Ou voilà, c'est exclusivement, c'est... Ouais, exclusivement un personnage féminin. 6% exclusivement des animaux et 6% autres. Juste la petite parenthèse encore sur les animaux. Je me suis mis à compter très très loin dans mes délires. 90% sont des animaux de sexe masculin.
Mâle donc.
Et j'ai mis 90% parce que je me laisse le doute sur quelques jeux que j'aurais pas forcément vu. En fait, j'en ai pas vu avec un personnage féminin.
D'accord.
Voilà, dans l'idée, soyons clairs aussi, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais. Je suis peut-être passé à côté de quelques jeux.
Mais en fait, la tendance est là, quoi.
La tendance est quand même très globalement là.
Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire en gros que le marché du jeu vidéo aujourd'hui serait plutôt orienté à aller vers le marché masculin encore, malheureusement.
Il est très 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 orienté même sur le marché masculin.
Ouais.
Je vais expliquer un petit peu pourquoi.
Macho quoi, presque.
Macho,
ouais.
Mais carrément macho, ouais, même.
Carrément
sur beaucoup de cas, on le voit. Alors, même si on enlève, parce que, à la rigueur, les thématiques historiques, Seconde Guerre mondiale, ouais, ce genre de choses, où, bon, en effet, ils n'ont pas envoyé forcément beaucoup de femmes sur le front. Mmh. Donc, si tu dois incarner un personnage, dans... généralement, pourquoi pas, ok. Mmh. Mais même si tu enlèves tout ça, il y a plein de jeux, il n'y a pas de raison particulière de jouer un personnage, d'avoir obligation d'un personnage masculin.
Ouais, tout à fait.
Surtout. Alors, je vais juste rester un petit peu sur mes chiffres pendant deux secondes. Là où il y a un flagrant équilibre, c'est sur le joueur PC. Mm-hmm. Le joueur PC, lui, a vraiment le choix, 90% du temps, de jouer l'un ou l'autre. Voilà. Surtout ce qui est proposé, encore une fois, c'est sur la vision de l'E3. Donc l'E3, c'est ce qui est en train d'être développé actuellement, ouais, pour les années à venir. Donc dans tous ces jeux-là, de manière générale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux où on incarne un homme obligatoirement, hein, quasiment 50%. Mais sur PC, de manière générale, on fait l'un ou l'autre. On a beaucoup plus de choix.
Bizarrement, c'est sur PC aussi qu'on dit qu'il y a les plus vieux joueurs.
Alors,
c'est-à-dire que c'est peut-être une question de génération.
Est-ce que c'est une question de génération possible ? Ouais. C'est aussi une question, je pense, en tout cas, alors là, il n'y a pas de chiffres là-dessus, c'est vraiment mon ressenti, je pense que c'est une question de liberté de création qui est plus importante.
Sur PC.
Sur PC, il y a une liberté de distribution du jeu qui est plus importante et qui permet en fait à des gens... à des développeurs, à des éditeurs, de se dire, ben, on va prendre, pas ce risque, mais on va aller sur cette thématique-là. On va travailler sur ça, on va travailler sur ça, et donc on va proposer ce genre de choses. Avec des vrais concepts de jeu, en fait, des choses qui sont quasiment invendables, qui n'intéressent qu'une poignée de gens, mais voilà. Et donc, en fait, avec ça, ils vont aussi se dire, ben, pourquoi pas, je vais créer un personnage, on va peut-être faire un homme, une femme, le choix d'entre les deux. Mais de manière beaucoup plus facile, en fait. On va approfondir généralement sur PC aussi des thématiques beaucoup plus profondes. Mais là, on parle de... C'est des tout petits jeux. C'est des jeux que moi, je me suis retrouvé à découvrir dans l'E3 sur des sous-discussions le petit éditeur qui était dans le coin annexe à côté des chiottes. Voilà, quoi. On parle pas du gros éditeur.
En fait, on a un peu la même répartition que dans le cinéma, pour le coup, entre blockbuster et cinéma d'arrêt d'essai. Quoi.
C'est totalement ça.
C'est ça. C'est le PC, c'est un peu l'arrêt d'essai.
Le PC a les deux, en fait, a le blockbuster, ouais, mais en même temps, il y a une grosse scène qu'on dit indé.
Ouais.
La scène indé, c'est des gens, c'est des développeurs tout seuls, ou en tout petit groupe, sans gros éditeurs derrière. C'est des indépendants qui développent leur jeu. Et qui, donc, ont leur liberté qui est totale.
Okay.
Et ils ont la possibilité aussi de s'éditer eux-mêmes. Le petit développeur indépendant.
Ah oui, d'accord. Ce qui n'est pas forcément possible sur console.
Ce qui n'est pas forcément possible sur console. Ouais,
pas possible
du tout. Il faut faire graver, ouais, tout ça, et c'est plus compliqué. Même s'il y a toute une scène indé dessus, hein, on va pas revenir. Enfin, je vais me faire des ennemis si je le dis pas, mais.
Non, mais tu l'as dit, tu n'auras pas d'ennemis.
Voilà, dans l'idée générale, c'est plus sur PC quand même que ça se passe. Donc, jouer sur console, c'est plus souvent jouer un personnage masculin. Et puis bon, bah, voilà, c'est un fait, c'est comme ça depuis très souvent. On joue à Mario, on va jouer Link, on va jouer tout ça, même s'il y a des efforts à ce niveau-là, ça reste. Est-ce que c'est parce que c'est plus jeune ? Est-ce que c'est parce que la cible est différente ? Je ne sais pas.
Ou est-ce que c'est par fainéantise et machisme des créateurs ? Va savoir.
Tout est possible. Une petite chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est affreux. Voilà, donc je vais passer à la suite.
Vas-y.
Voilà, c'est pas grave. Si, oui, je voulais juste revenir sur un petit comparatif par rapport à N-1, enfin les années d'avant, parce que je donne des chiffres, c'est intéressant quand même de pouvoir les comparer. Le niveau, le pourcentage des jeux où les protagonistes, enfin les avatars sont des femmes, a légèrement augmenté, et a une tendance à légèrement augmenter.
Ce qui est une bonne nouvelle quand même.
Ce qui est une bonne nouvelle, mais pas au c'est pas la diminution des jeux où on joue un homme. C'est les jeux où on joue des animaux qui ont tendance à disparaître.
C'est horrible.
Voilà. Donc la cause féminine a dépassé la cause animale dans les jeux vidéo. J'adore dire cette phrase.
C'est terrible, quoi.
Voilà. C'est absolument pas le côté macho. On joue toujours des hommes surtout, hein, et ça changera pas pour l'instant. Mais les femmes ont. Voilà.
Mais ce qui est marrant, c'est surtout la notion de marché qu'il y a derrière. C'est-à-dire que les éditeurs se disent, bah attends, on va arrêter de faire des jeux où on peut jouer avec un dada, par exemple un cheval. Bah ça va, on va leur mettre une héroïne parce qu'elles aimeront quand même. Et on sent qu'en fait, au final, ces jeux étaient déjà destinés dans la tête des éditeurs au marché féminin et basta, et qu'on n'a pas envie de créer des jeux de baston ou des jeux de stratégie avec des personnages féminins. Et c'est hallucinant, quoi, parce que finalement, si l'un bouffe l'autre, c'est vraiment qu'il y a une niche qu'on garde. Comme ça, on dit, on a cette niche de 12-13% là qui. Allez, on va faire osciller entre les deux. Enfin, c'est un peu naze, quoi, quand même.
C'est un petit peu naze. Mais je vais juste rebondir rapidement, c'est pas du tout. Je dépasse sur le temps, mais je me fais plaisir. Sur les jeux de baston,
ouais.
Bizarrement, en fait, depuis quasiment toujours. Enfin, moi, j'ai pas une connaissance ultime du jeu vidéo non plus, mais depuis les premiers Street Fighter, depuis tout ça qui commence maintenant à remonter, il y a toujours eu des protagonistes féminins.
Ouais,
pas féminine, en égalité, ouais. Mais qui ont toujours été là quand même. Et je trouve ça bien, parce qu'il y a plein de gens, quand j'en parlais de ça, que j'avais parlé de ça, qui me prennent l'exemple des jeux de baston. Et au final, les jeux de baston, ils ont quasiment toujours des personnages féminins.
Ouais, mais par contre, alors là, je vais nuancer, je suis un vieux joueur, moi, je joue depuis très longtemps, mais je me souviens très bien des Street Fighter. C'est que la différence, ou des Dead or Alive, la différence entre les deux, c'est que les personnages masculins, ils étaient tous bien habillés, ou alors ils avaient tous leur tenue de
ça,
combat.
C'est sûr.
Et les femmes, c'était de toute façon, elles étaient habillées hyper sexy à la mode de l'époque, et quand elles mouraient connement, alors que les protagonistes masculins mouraient dans une virilité.
Voilà.
Et c'était, enfin, il y avait certes ça, mais enfin, je pense pas que les femmes arrivent à se retrouver dans ces personnages-là, parce que clairement, enfin, c'était un peu ridicule, quoi.
C'est sûr que non.
C'était très machiste, quoi, vision de la femme, quoi.
Voilà. Donc le jeu vidéo est encore assez machiste. Le jeu vidéo est encore assez machiste, et comme j'expliquais un petit peu, ça prend longtemps de développer un jeu. Et en fait, on est sur une visualisation de la société qui date d'il y a 3, 4, 5 ans. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. C'est quand c'est forcément un milieu, un marché qui est en retard sur les égalités et sur plein d'avancées, parce que c'est plus long à développer. Donc en fait, on peut espérer que les évolutions qui sont amenées maintenant vont se trouver dans les jeux vidéo dans les 3 prochaines années. Mais pas tout de suite. C'est pas illogique. C'est pas bien, mais c'est pas illogique.
Ce que tu es en train de dire, c'est que les chiffres que tu as donnés au début, qui sont donc le 3 2017,
ouais.
On va voir ces chiffres-là dans les ventes de jeux l'année prochaine, du coup.
Exactement, oui.
Ouais, et donc, il y a un décalage comme ça.
Il y a un décalage constant.
Donc, tu vas avoir une mission pour le 3 2018, c'est voir si ça s'est vraiment amélioré.
Bien entendu.
Ou pas.
En 2018, je serai là et je vous referai la même chronique, en espérant que les pourcentages soient plus agréables. Mais tout n'est pas perdu. Il y a eu des évolutions.
Espérons quand même.
Il y a eu des choses bien qui se sont passées, que j'ai pu noter. Déjà, depuis quelques années, depuis à peu près 2014-2015, il y a la disparition de ce qu'on appelle les babes. Les babes, donc, c'était ces femmes très très courtement vêtues qui étaient là pour attirer le chaland vers un produit qui ne correspond absolument pas au personnage, enfin à la personne qui le présente. Enfin, il n'y a aucun rapport. Pourquoi on a mis des femmes toutes nues? C'est juste pour attirer les gens.
Comme au salon de l'auto, en fait. C'est le même principe.
Exactement. Ouais.
Et donc, sauf que là, elles n'ont pas disparu, malheureusement.
Et voilà, ça, c'est ma grande tristesse. C'est que ça a disparu dans le monde du jeu vidéo. Toujours pas sur le salon de l'auto. On va croire que les vieux beaufs, ils ont toujours le droit de faire ce qu'ils veulent.
Ouais. Big up aux vieux beaufs.
Big up à vous. Hein. Voilà. Non, d'autres choses qui sont intéressantes aussi. L'année dernière, un des plus gros cartons jeux vidéo ludiques s'appelle Horizon Zero Dawn. C'est un personnage féminin qui est vraiment un personnage fort. Et là, quand j'ai un personnage fort, c'est un personnage qui... On sent le personnage badass, mais pas la Lara Croft, pas tout
non,
ça.
Un
vraiment,
personnage costaud.
Bon, un vrai personnage, voilà. Qui est habillé normalement, qui n'est pas là pour faire mettre ses attributs en valeur. C'est un jeu qui a eu un succès incroyable. C'est un jeu absolument merveilleux. Donc... l'année dernière, il y a des jeux qui fonctionnent comme ça, donc je pense vraiment que les éditeurs vont arrêter de forcément se dire que pour vendre, il faut un mec. Et d'ailleurs, ça a commencé à arriver parce qu'il y a une série qui s'appelle Uncharted. C'est une grosse série sur PlayStation qui a survendu. Enfin,
il y avait beaucoup de pubs partout. À un
exactement.
Moment donné,
c'est Nathan Drake. On l'a vu dans tous les métros, etc. Enfin, c'est le bon mec. Bah, cette année, sur le 5e épisode, le personnage principal, qui était avant un homme, n'existe plus. Et on a la possibilité d'incarner que deux femmes. On a le choix entre deux femmes. On va alterner en fait.
C'est un choix finalement de l'éditeur.
C'est un choix complètement de l'éditeur.
Et des créateurs.
Dit, voilà, moi on a envie d'aborder ce sujet-là, de le faire comme ça, et que les protagonistes ce soient deux femmes.
Ah, c'est cool.
Et donc c'est très cool. Moi j'étais très content de voir
ça. Ça montre qu'ils ne sont pas tous bourrins et pas tous cons. Il y en a qui font un peu attention. Quoi. Enfin, qui sont pas
oui, mais il y en a plein qui au final ont vraiment cette envie de promouvoir un message en plus du média du jeu, enfin du plaisir de jouer.
Moi je me rappelle d'une polémique qui m'avait fait rire, parce que j'avais lu ça, c'est quand ils ont fait le on dit reboot, hein, c'est ça, de Lara Croft, là, le je recommence à zéro de Lara Croft, et c'est drôle parce que là ils ont pris le choix de la faire réaliste.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle est, voilà, elle est au Tibet, elle est habillée avec des fringues d'hiver, quoi, vous voyez, c'est un truc. Et en fait, il y a des gens qui disent, ah, mais c'est plus Lara Croft comme on l'aimait. Et là, en fait, je vous dis, il y a plusieurs féministes, joueuses féministes qui ont répondu en disant, en fait, ce que vous aimiez dans Lara Croft, c'était pas le jeu, quoi, c'était de la plastique, de la nana. Et là, elle disait, mais en gros, c'est ridicule, on n'achète pas un jeu à 99$ juste pour se rincer l'œil, quoi. Enfin, et en fait, c'est drôle parce que ça montre quand même qu'il y a un vrai boulot de d'éducation au sens large à faire dans le monde du jeu pour qu'on arrive à avoir une meilleure acceptation. Et je repense aussi aux chroniques que Emma avait fait à l'époque dans l'émission, sur des blogueuses joueuses en fait qui s'étaient fait harceler parce qu'elles avaient juste osé dire ce serait quand même cool qu'il y ait autant de femmes que d'hommes comme personnages, quoi, et c'était quand même pas un truc ultra révolutionnaire, mais voilà, et je trouve que c'est, enfin voilà, ça montre qu'il y a encore un énorme boulot, quoi, à faire.
Il y a un énorme boulot, et quand, enfin, on va pas l'aborder ce soir, mais,
non, mais
le boulot est complètement fou quand on voit les réactions sur les forums, tout ce genre de choses où c'est vraiment de la menace qui va très
oui,
rapidement,
c'est ça,
enfin,
vite,
hein. c'est vraiment pas glorieux, et même si les éditeurs, et même si on voit un certain mouvement qui va de l'avant, du fait qu'il y a un décalage donc de X années dans les développements, etc., je pense que ça influence énormément tous ces joueurs, tous ces jeunes joueurs qui parfois font vraiment preuve de bêtise, parce que c'est de la bêtise.
Ah oui, clairement. Ouais.
Et vivement que ça change.
Ouais.
Et donc on reviendra en 2018 pour voir si ça a changé.
Ouais, et puis un petit appel aussi aux ligues de joueurs et autres qui peuvent aussi avoir leur rôle dans le poids sur les éditeurs.
Et oui.
Parce que quand une ligue de joueurs dit moi j'aimerais que pouvoir avoir des personnages féminins, enfin avoir des femmes, jouer des femmes ou dans mon jeu, je pense que l'éditeur pourrait se poser des questions en disant ah ouais là je risque de perdre un marché, vous voyez, parce que ça reste du capitalisme tout ça quand même.
Bien entendu, il faut parler sous, sinon ça n'a aucun intérêt.
Bah voilà.
Petite musique ?
Grosse musique, je te rappelle que c'est toi qui l'as choisie, et celle-là, accrochez-vous derrière votre poste.
Et de retour, donc, sur la causerie. 22h, 23h et quelques minutes de plus, déjà.
Ah bon?
On vient de s'écouter le main title, donc le musique principale.
Comment tu dis ça bien?
Ouais, t'as vu,
le générique.
Le Skyrim, un jeu vidéo. Donc là, j'ai pris ça vraiment un titre de jeu vidéo qui est fait avec les mêmes moyens pour un film. C'est un jeu vidéo extraordinaire qui date de 2011 et qui a encore été représenté cette année à l'E3 pour 2-3 choses particulières et qui nous fait encore frétiller. Oui, le geek est un produit marketing assez facile à gérer.
À faire frétiller.
Il suffit juste de lui ressortir les jeux vidéo d'avant et on se dit « Ouh, c'est génial, ouh, j'adore
oui. !» Ah oui, j'ai vu ça aussi avec Age of Empires.
Ah, Age of Empires, voilà. Remasterise, c'est magnifique.
T'as vu, je me tiens au courant de la
culture. Ouais, tu me fais peur.
Bah, c'est depuis qu'on se connaît. Hein. Je me suis remis depuis qu'on se connaît et je crois que c'est une sale maladie. Enfin bon. En tout cas, il est temps de passer au brève. Et je n'ai pas de jingle brève, mais jingle brève.
Voilà. Brève.
C'est à toi.
Ah, c'est moi qui commence.
C'est toi qui commence.
Tu m'as dit il y a deux secondes.
Ah non, c'est moi.
L'inverse.
Voilà. J'ai dit n'importe quoi. Alors, pardon. Lundi 19 juin. Donc, vous avez noté lundi 19 juin. Appel du Front Social à une manifestation contre la loi travail et la future loi Macron. C'est à 18h, place des Terreaux.
Et comme tous les lundis, les permanences juridiques de soutien aux sans-papiers, c'est à partir de 18h30, au 91 rue Montesquieu dans le 7e, c'est la lutine.
Dans la série Coucou, c'est toujours la quinzaine des fiertés, un ciné-débat autour du film Pride, mais cette fois proposé par la CFDT. Au local de la CFDT, 214 rue Avenue Félix Faure à Lyon 3e.
Ce ciné-débat, c'est le mardi 20 juin.
Ah oui, mardi 20 juin. J'ai oublié de dire que... Et c'est aussi mes 40 ans. Voilà, vous êtes content de l'apprendre, mais c'est fait. À toi.
Très bien. Donc le mercredi 21 juin, il y aura la fête de la musique un petit peu partout, mais c'est aussi l'occasion d'aller écouter de la musique sympa et de rencontrer l'association Franco au
Fraco.
Fraco. Pourquoi j'ai mis un N?
Il n'y avait pas de général Franco, Fraco.
Fraco au Bomp.
Ouais, Bomp.
Voilà,
ouais.
Au Bomp. Avec de la musique bossa, latino, raga, électro, dub, ska. Non, en fait, j'ai des trucs en plus. Ça n'avait pas électro, mais ça a l'air d'être cool. Plein de choses. Ils y joueront Istamar, Orgamix, DJ Seb et Selecta Kung Fu Crazy. À partir de 20h à 1 place Croix Paquet, Lyon 1er.
Oui, c'est la Fraco qu'on avait reçue dans l'émission. Donc on avoue, c'est un petit coucou amical, parce qu'il y a plein de musique partout le 21. Et le 22 juin, alors toujours dans la série Quinzaine des Fiertés, handicap et minorité sexuelle, projection du film Cerveau mouillé d'orage, suivi d'un débat en présence des héroïnes Laurence et Hélène, ainsi que de la réalisatrice Karine Lémon. Au centre LGBTI, c'est un lieu accessible en fauteuil, le film est sous-titré pour les sourds et les malentendants. C'est à 20h30, centre LGBTI, au 19 rue des Capucins, dans le 1er.
Le vendredi 23 juin, donc, l'avant-première du film Construire Mazagran, autour de la place Mazagran et des initiatives prises pour la transformer avec la population. C'est à la librairie La Griffe, en présence de la réalisatrice Laura Tangre, à 19h, 5 rue Sébastien Griffe, Lyon 7e.
Et le même jour, c'est-à-dire vendredi 25 juin, c'est la diffusion de la web-série Les Engagés, celle dont on a parlé la semaine dernière, au centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins. Et attention, ça commence à 22h30.
Et le samedi 24 juin, venez découvrir les 32 associations qui composent le centre LGBTI de Lyon, au 19 rue des Capucins, à Lyon 1er.
Toujours.
De 19h à 23h.
Et puis pour finir, le 24 juin, c'est l'appel du 18 juin. Oui, oui, c'est bizarre. Et en fait, on va vous expliquer. C'est que le cirque, comme chaque année, organise un événement festif et politique autour de la dépénalisation du cannabis. Et lorsqu'ils ont demandé d'avoir une place, un endroit où se poser le 18 juin à la mairie, eh ben, figurez-vous que comme c'est une période électorale, ils ont pas le droit. Voilà. Mais oui.
Ah, c'est fou, ça.
C'est un peu con, surtout. Mais on remercie la mairie, comme la préfecture pour la Pride. On remercie plein de gens comme ça qui ont l'air bien sympathiques.
Merci à vous.
Et donc voilà. Donc du coup, ils ont trouvé une place, mais que le 24 juin. Donc c'est pour ça que l'appel du 18 juin est le 24 juin. Et c'est donc du coup au Parc des Berges, arrêt tram T1, arrêt Altony Garnier. Et la soirée festive est assurée par Breda Sound System. Voilà. Pour les brèves, pour la semaine prochaine. C'est bien, non?
C'est parfait.
Vous avez envie de faire plein de trucs.
Bah oui.
Et si vous ne les retrouvez pas, bah vous
tapez sur internet, vous allez retrouver tout ça, parce qu'on ne les met plus sur le blog.
Ça, ça fait trop de lignes. Place.
C'est vrai.
Pour les feignants.
Ouais, ça fait un peu feignasse, ah ouais, mais c'est un peu vrai ça quand même. Le... Et ben voilà, merci d'être resté avec nous jusqu'à maintenant.
Oui.
Parce qu'il est un peu plus tard que 23h. On va se quitter avec un morceau dont j'ai perdu le titre et là, meuble un peu pendant que je cherche.
Oui, alors au pire, si vous ne vous rappelez plus des événements, vous n'avez qu'à nous réécouter en podcast.
Voilà, sur le blog.
Sur le blog.
Merci.
Donc voilà.
Je suis désolé. Ah, ça me perturbe d'être à la technique, je suis vraiment désolé. Alors, on va se quitter avec un titre qui s'appelle Wolfgang Homo Deus de Acromega. Alors, c'est issu de Fugitive Data, qui est un fanzine que je trouve très très bon. Vous trouvez ça sur internet, Fugitive Data. Voilà. On vous mettra peut-être le lien sur le blog, je pense. Voilà.
On est des foufous.
Et c'est de la musique électro, de la poésie et compagnie. Et là, le titre, c'est « Contre les délires techno-scientistes » avec beaucoup d'humour dedans et de la grosse techno qui tape.
Et je parlerai sûrement de ça un jour en plus.
Ah, ça c'est bien. Teaser.
Yeah.
Allez, des bisous à tout le monde.
Bisous, bonne semaine.
Et hop, Oli, il est temps.
La viande est synthétique. La viande est synthétique. Tu es des plus nécessaires pour le régime alimentaire. La génétique, adieu les maladies antiques. On rallonge les télomères, nous vivons un millénaire. Fin du réchauffement climatique et des crises énergétiques. Partout des capteurs solaires, plus besoin de nucléaire. Nous avons dépollué la terre, l'atmosphère et la mer. Notre planète est un sanctuaire, un monde égalitaire, paritaire, séculaire, solidaire, humanitaire. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, on rallonge les télomères. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, nous vivons un millénaire. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, partout des capteurs solaires. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, plus besoin de nucléaire. Gouvernance démocratique, transparence éthique, mort du monopole bancaire, la blockchain est planétaire. Hommes et machines symbiotiques, couverts d'un plan robotique, nous parcourons l'univers vers des mondes extraordinaires. Disparition des milliardaires, des prolétaires, des actionnaires, des réactionnaires, des régimes totalitaires, des militaires et de la guerre. Nous sommes devenus exemplaires, le bonheur sur Terre est prioritaire. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, mort du monopole bancaire. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, la blockchain est planétaire. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, nous parcourons l'univers. La viande est synthétique, la viande est synthétique. La viande est synthétique, vers des mondes extraordinaires. La viande est synthétique, tic, 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 tic,